France Inter.
Bienvenue dans Au Livre, etc. Aujourd'hui, pour la première émission de l'année, une spéciale bande dessinée avec deux légendes du 9e art.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassel.
J'aurai le plaisir d'accueillir d'abord l'auteur suisse Bernard Cosendès, dit Cosé, lauréat du Grand Prix d'Angoulême 2017, après avoir marqué des générations de lecteurs avec les voyages initiatiques de son héros amnésique Jonathan. Cosé a publié récemment Yiyun, un album en forme de chronique sentimentale qui tisse un lien entre le canton de Vaud en Suisse et la Chine de la politique de l'enfant unique, et ce, tout en rendant hommage à la tradition helvétique du papier découpé. Alors dit comme ça, ça peut sembler bizarre, mais en réalité, ce sont précisément ces mélanges formels qui donnent toute sa force et sa singularité au projet. Puis nous nous pencherons sur le parcours de Cyril Pedrosa, bédéaste français passé par les Gobelins, qui a fait ses armes au sein des studios Disney sur des films comme Hercule ou Le Bossu de Notre-Dame. Nous évoquerons avec lui son dernier projet, Nambanjin, qui sortira dans quelques mois, une œuvre monumentale réalisée à quatre mains avec le mangaka japonais Taiyo Matsumoto. L'idée est juste géniale, deux regards, un français et un japonais, pour raconter une seule et même histoire, celle de la première rencontre entre occidentaux et japonais au XVIe siècle. Le projet sera conséquent et donc, en attendant, deux cahiers préparatoires seront publiés le 15 janvier comme une mise en bouche. Vous l'aurez compris, qu'il soit question de rencontres ou de culture en dialogue, Cosé et Cyril Pedrosa partagent une exigence commune, faire de chaque planche un voyage. On parlera tout ça avec eux et avec les libraires francophones qui nous accompagnent chaque semaine tout au long de l'émission. Vous écoutez Au Livre, etc. C'est parti.
Au Livre, etc.
Cosé, Cyril Pedrosa, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir, car j'ai pris beaucoup de plaisir à vous lire. Et surtout, je vous trouve très complet. Vous réfléchissez l'un l'autre à vos albums comme à des projets à 360 degrés. Le texte, le dessin, certes, mais aussi une vraie recherche formelle. Et ma première question sera donc la suivante. Est-ce que ça veut dire que la bande dessinée traditionnelle, à l'heure des séries, des réseaux sociaux, ne suffit plus ? Ou est-ce que c'est juste votre envie personnelle qui dicte ces projets-là, Cyril Pedrosa ?
Ah, j'allais dire Bernard, je t'en prie. Non, je pense que la bande dessinée est un médium très riche. Il utilise des choses simples, des mots et du dessin. Mais avec ça, on peut faire beaucoup de choses. Et donc réfléchir à plein de formes. Il y a des formes plus connues de la bande dessinée que d'autres, bien sûr. L'album de 46 pages,
classique,
format standard classique, est sans doute plus connu ici en France. Oui. Mais disons qu'au Japon, c'est d'autres standards qui existent, aux États-Unis, d'autres standards encore. Mais ça fait quand même longtemps, Bernard en fait partie, moi aussi un peu, mais que des auteurs et des autrices expérimentent à partir de ces éléments de base que sont du texte et du dessin, plein de formes différentes, parfois d'une manière très structurée, très élaborée. Donc c'est un médium très très riche en fait. Et je pense pas que ce soit en lien avec l'émergence d'autres supports. Ça préexistait déjà. C'était déjà le cas, ouais.
Vous faites la même analyse ?
Moi, je crois que je suis un égocentrique grave. Non, mais je plaisante pas. Honnêtement, je pense pas, quand je travaille au début d'une bande dessinée, au projet, je ne pense pas du tout au public. Je travaille pour moi, j'essaye de réaliser cet album génial que j'aimerais trouver en librairie, mais que je trouve jamais. Donc j'essaye de le faire moi-même. Et comme j'échoue à chaque fois, eh ben, ça me donne l'énergie pour en faire un nouveau.
Mais est-ce que vous vous autorisez plus de choses qu'à vos débuts ?
Oui. Oui, je dois même dire quelque chose qui est peut-être anecdotique, mais quand j'ai eu la chance de recevoir ce Grand Prix d'Angoulême, tout le monde m'a dit « Ah, mais ça place la barre très haut, tu vas être stressé pour la suite ». Eh bien, au contraire, moi je l'ai pris comme un encouragement, et je me suis senti autorisé à déborder un peu plus. Bon, je suis suisse, hein, mais débordement,
c'est rare,
très
réservé. Ça t'a libéré.
Ça m'a libéré, absolument. Ah ouais. Ça m'a donné confiance. Je me suis dit, mais au fond, oui, j'ai le droit de m'amuser et de faire même ce qui est a priori déconseillé. Par exemple, des tartines de texte. C'est illisible dans une BD. Je me suis amusé à en faire une ou deux dans cet album. Il y en a quelques-unes. Mais avec un avertissement au lecteur.
Mais d'ailleurs, c'est ce que vous écrivez. Ouais. Vous pouvez sauter ce passage.
Oui.
Vous pouvez aller. Vous avez le droit. Je m'amuse un peu.
Les lecteurs, lectrices peuvent sauter le passage, continuer dans l'histoire. Et après, un an après, ils peuvent y revenir et découvrir ce qui avait manqué. Mais donc, toujours la recherche de mon plaisir, parce que je pense qu'il est indispensable pour que les lecteurs, lectrices aient du plaisir.
Mais c'est vrai que la BD a à voir quand même avec le jeu. Et en vous lisant, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, c'est que vous vous amusez aussi dans ces recherches de forme. Et surtout, je me suis demandé où vous étiez allé chercher vos histoires. Chez vous, Cosé, l'histoire de ce jeune homme qui s'appelle Urs, qui est suisse, qui a 14 ans et qui va rencontrer une jeune chinoise sur les pistes de ski qui s'appelle Mei, qui a un œil bandé et dont on devine assez vite qu'elle cache un secret. D'où vous est venue cette idée de lier la Suisse à la Chine ?
Parce que moi-même, je suis attiré par ces deux opposés, mais ce n'est pas la Chine spécifiquement, c'est l'Asie en général. Et puis, ce qui m'amusait, c'était le fait que cette jeune Chinoise, qui a un comportement incohérent et incompréhensible, ressemble fortement à une héroïne de bande dessinée, dont mon personnage Ours est lecteur et fan, et de jouer sur cette ressemblance et mystère.
Est-ce que vous cherchez, vous, parfois, dans les physiques que vous rencontrez, des personnages ? Est-ce que vous retrouvez des personnages que vous avez vous-même dessinés, par exemple ?
Je suis toujours à la recherche, mais je ne pars pas une seconde où je ne demande pas si telle poignée de porte. Oui, je suis toujours à m'inspirer de tout et de n'importe quoi. Donc c'est un vrai puzzle, un melting pot avec des éléments... Le fait pour moi, le fait qu'un élément, quel qu'il soit, ça peut être un dialogue entendu dans un train, ça peut être une paire de chaussures, n'importe quoi, le fait que ça retienne mon attention, ça veut dire qu'il y a une résonance et je considère que ça pourrait être un élément que je vais utiliser, parce que j'utilise pour raconter mes histoires.
Et vous, Cyril Pedrosa, cette idée de soldat portugais naufragé, elle est née comment ?
Un peu par hasard, c'est-à-dire que je suis tombé sur un texte portugais de l'époque, je crois, qui s'appelle Les Pérégrinations, je crois.
Donc c'est au XVIe siècle.
Au XVIe siècle, donc c'est en 1543, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, cette rencontre a été chroniquée à l'époque pour le roi du Portugal, pour des raisons essentiellement politiques. Donc c'est un texte qui n'a pas une valeur historique immense, enfin, en tout cas qui est très discuté, très discutable, mais qui m'a fait découvrir que la première rencontre entre l'Occident et le Japon s'était faite entre des Portugais et le Japon. Et ayant des origines portugaises, ça m'a touché, ça m'a intrigué. Et puis j'ai lu au même moment pratiquement un texte japonais de la même époque qui racontait cette rencontre. Et là j'ai trouvé ça très 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 intéressant et très excitant en me disant, d'abord c'est quand même une rencontre ahurissante, enfin, qui est de l'ordre d'une rencontre du troisième type entre deux civilisations très, très, pas opposées, en tout cas très, très différentes l'une de l'autre, mais toutes les deux très élaborées, très, très structurées, et qui se rencontrent. Et y a la possibilité donc de parler d'un autre. Vraiment d'un autre, et en même temps en ayant deux points de vue. Et c'est tout de suite, je me suis dit ce qu'il faudrait faire avec, si je pars dans cette histoire, ce serait que je raconte l'histoire de cette rencontre vue du point de vue occidental, et puis que j'arrive à trouver un auteur japonais qui raconterait cette histoire, mais vue du point de vue des habitants de cette île au Japon.
Donc l'idée est venue tout de suite, travailler comme ça à quatre mains. Et comment vous avez rencontré ce mangaka japonais ?
C'est-à-dire que je dois avouer qu'en fait, je lis pas beaucoup de mangas, et Taiyo Matsumoto est mon auteur de manga préféré, mais depuis très longtemps en fait. Et j'ai tout de suite pensé à lui, mais en fait simplement d'abord parce que j'admire son travail, et puis parce que l'idée de pouvoir travailler avec lui me paraissait une chance folle en fait, une expérience qui serait tellement incroyable à vivre. Et il se trouve que, ça me paraissait inaccessible, je ne voyais pas comment je pouvais rentrer en contact avec lui, et par chance, vraiment par chance, il était invité au festival d'Angoulême en 2018, et lorsque j'ai su ça, ça m'a vraiment mis en mouvement en fait, c'est-à-dire que hop, j'ai tout fait pour pouvoir le rencontrer, j'ai posé très rapidement sur le papier une espèce de mini-synopsis de ce que pourrait être le récit, et j'ai eu la chance de le rencontrer. Et j'ai eu la chance que ce projet l'intéresse un peu, en fait. Et puis qu'ensuite, on puisse se revoir, en reparler, et qu'il l'accepte, et qu'ensuite, on puisse travailler ensemble.
Bon, je vous demanderai tout à l'heure comment vous avez travaillé concrètement. Je voulais savoir, dernière question pour cette première partie d'interview, qu'est-ce qui a été le plus difficile dans vos projets à tous les deux, Cosé ?
La grande difficulté qui revient toujours, c'est de trouver des idées qui m'enchantent, qui m'allument, enfin, qui me font rêver. On ne sait pas très bien où il faut aller les chercher. C'est plutôt une question de réceptivité, par définition, qu'on ne maîtrise pas. Ça reste ma grosse difficulté. Trouver une bonne idée.
Vous pouvez rester longtemps sans écrire, sans dessiner.
Être en panne pendant 3 mois. Parce que je note des idées et puis j'écris.
C'est peu.
Ça peut être peu, comme dit Cyril, oui. Finalement, je finis par trouver quelque chose qui me convient.
Et alors, mais vous
là,
cherchez ou vous attendez que ça vienne?
Non, je peux pas m'empêcher de chercher, je ne peux rien faire. Et donc, ça prend énormément de temps. Cette étape passée, alors ça devient du travail, et développer l'idée, ça c'est du plaisir. Mais vraiment, la grosse difficulté, c'est
le point de départ.
Où aller chercher cette idée? Elle ne peut pas se construire. Si je la construis, elle n'est pas bonne. Elle doit venir d'une certaine manière.
Et pour vous, Cyril Pedrosa?
Ça a à voir avec ce que vient de dire Bernard, mais je pense que ce qui a été le plus difficile dans mon travail, ça l'est beaucoup moins maintenant, mais ça a été de faire confiance à mes intuitions. Et bien sûr qu'il s'agit d'avoir décidé, mais de faire confiance à ce qui m'attire. J'avais beaucoup de mal à faire confiance à mes intuitions, ça m'a pris beaucoup de temps. Et donc de me donner des autorisations.
Et quand c'est comme ça, vous ne demandez pas à un éditeur ou un ami?
Si, bien sûr, un ami comme dans un jeu télévisé. Non, mais bien sûr, j'en parle autour de moi, mais c'est surtout qu'en fait, c'est quand même un travail à faire sur soi. Mmh. Il se trouve que je pense que faire de la bande dessinée ou comme, je ne sais pas, être monté sur scène, etc., c'est quand même affirmer quelque chose. Et il faut arriver à clarifier ce qu'on essaye de faire, un peu, je trouve. Enfin, en tout cas, moi, j'ai envie de ça.
Il faut le faire avant, en tout cas.
Je trouve que c'est mieux. Ça évite des mauvaises surprises, parfois.
Causé, Cyril Pedrosa, j'ai 1000 questions sur l'art de la BD que je ne maîtrise pas du tout. Et donc, je suis très curieuse de comprendre comment vous travaillez concrètement. On revient dans un instant pour en parler, mais d'abord, on écoute Lynn, ce que tu me fais. Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie de l'auteur français Cyril Pedrosa et du bédéaste suisse Bernard Cosandet, dit Causet. Et j'ai le plaisir d'accueillir l'une de vos compatriotes. Il s'agit d'Annick Vermeau de la librairie Zalactoré à Martigny en Suisse. Bonjour Annick.
D'où bonjour du Valais.
Bonjour Annick.
Vous êtes une grande fan de Causet, vous connaissez je crois.
Oui, on s'était rencontrés à la sortie du dernier Jonathan en 2021.
Et vous avez aimé cette saga, Jonathan ?
Oh oui, tout à fait. Ça m'avait plongé d'ailleurs dans une certaine mélancolie à l'époque quand j'ai terminé sa saga, parce qu'un bout de mon enfance disparaissait avec elle. Et d'ailleurs, il a fallu 4 ans pour mûrir et peaufiner ce nouvel album. En le recevant, quand j'ai vu la couverture, j'ai une petite montée de mélancolie avec la réminiscence des dimanches passés à lire les Jonathan sur mon canapé, avec aussi Léa à la recherche de Peter Pan. Ah. Et alors j'ai ouvert avec gourmandise l'ouvrage et je m'y suis plongée. Et j'ai trouvé mes thèmes favoris avec l'Asie, les relations amoureuses, et puis cette éblouissante aventure avec ce que nous nommons en Suisse le pays d'en haut et Taïwan.
Et on en parlait tout à l'heure, Annick, ce qui vous a vraiment plu à vous aussi, c'est l'audace formelle du projet.
Oui, Lila, au premier abord, la BD est un peu déroutante parce que Bernard, tu t'es absolument rien refusé.
Exact.
Déjà dans la manière de présenter l'histoire, tout d'abord le carnet de croquis tardinationnellement qu'il est relégué en fin d'ouvrage, et puis ses dessins sont présentés en prologue, ouvrant une délicate mise en bouche, j'ai trouvé. Et puis ensuite, c'est un exposé sur les papiers découpés, cet art vraiment subtil et tout en finesse du beau des ciseaux qui est détaillé et qui plonge le lecteur dans un graphisme en noir et blanc. Et vous, car vous êtes visiblement un admirateur de cet art ancestral basé sur la patience et la dextérité. Et puis ensuite, on va bousculer encore un peu les codes parce que vous faites découvrir les personnages à qui on espère on va peut-être s'attacher. Et on arrive à la préface qui n'est pas un petit texte lambda, mais une bande dessinée réalisée par la dessinatrice lausannoise Mahou. Et d'ailleurs, j'étais séduite par votre remise en cause sur le traitement du personnage féminin. Je trouve que cette démarche est remarquable et payante. Votre échange avec Mahou donne, à mon avis, une héroïne bien plus complexe et vraiment, vraiment très attachante.
Est-ce que vous pouvez, je fais une petite pause, est-ce que vous pouvez nous expliquer, causer justement ce que vient de dire Annick ? Est-ce que c'est intéressant ?
Oui, par rapport à l'introduction, à la préface de Mahou, qui est une dessinatrice d'origine chinoise, je me sens toujours un peu en porte-à-faux quand j'ai tous mes albums qui parlent du Tibet, qui montrent ma position claire de parler du Tibet comme d'un pays occupé. Et en même temps, je suis un dessinateur qui vit bien au chaud, dans son chalet confortable, dans les montagnes suisses, qui ne prend aucun risque. Et là, j'ai pensé que, en découvrant le travail de Mahou dans un album qu'elle a un peu autobiographique qui s'appelle Fleurs de prunier, j'ai pensé qu'elle était bien placée pour apporter une note de vécu, puisqu'elle a réchappé à cette politique de l'enfant unique. Donc je l'ai invitée à écrire cette introduction.
Alors Annick, il y a cette forme ambitieuse, riche bien sûr, mais vous, quand vous conseillez la bande dessinée Yiyun à vos clients dans votre librairie, vous leur racontez surtout l'histoire, j'imagine.
Tout à fait, c'est surtout l'histoire d'Urs, ce jeune adolescent des années 90 qui skie, qui fait des papiers découpés pour pouvoir se payer deux, trois petites choses. Il va rencontrer au détour d'une piste Mei, cette étudiante chinoise dans un collège étranger qui porte un cache-œil sur le télésiège à l'arrêt. On va voir que le courant va passer entre les deux adolescents. Et en plus, comme Mei ressemble, comme l'avait dit Cosette, à l'héroïne de bande dessinée d'Ours, eh bien, il y a ce courant qui passe, un petit début d'histoire d'amour, et de vacances scolaires en vacances scolaires, ils vont se recroiser. Et entre le théâtre d'ombre chinoise, des silhouettes en papier découpé et les paysages enneigés, un clin d'œil certainement à la recherche de Peter Pan, la magie opère en toute légèreté. Pourtant, le thème principal de la bande dessinée est grave et lourd, comme il s'agit de la politique de l'enfant unique en Chine, et de celle-ci a découlé un nombre impressionnant d'avortements, de stérilisations forcées, d'abandons, et puis de garçons en situation de handicap, et surtout de fillettes. Et d'ailleurs, on appelle, si j'ai bien compris, ces enfants abandonnés les Oku. Et c'est là que le destin de Mahou et de Mei se rejoignent, mais là, je n'en dirai pas plus. Donc, de cette dualité, rien n'est explicité et tous devinent. C'est ce que j'ai absolument adoré, c'est que l'imagination est vraiment, vraiment stimulée.
Merci beaucoup, Annick. Et vous aviez une question pour causer.
Oui, alors, je crois que tu t'es essayé à la découpe des papiers.
Oui.
Et oui. Est-ce que ça a été un plaisir? Ça a été difficile? Comment ça s'est passé, cette expérience?
Alors, je dois d'abord avouer que j'ai trahi le Valais en passant au Pays d'en Haut, qui se trouve dans le canton de Vaud. J'espère qu'on ne m'en voudra pas trop. Mais oui, j'adore ces papiers découpés dans leur simplicité noir-blanc. Et j'avais le projet même de faire tout l'album en papier découpé moi-même. Donc, je suis allé prendre un cours. Et après une heure d'exercice, j'ai découvert que c'était hors de question. C'est fastidieux, on ne peut pas se lâcher comme on peut le faire avec un pinceau. Mmh. Au bout d'un moment, ça fait mal, ces anneaux métalliques autour des doigts. Donc j'ai fait mon après-midi d'école. J'en ai réalisé un qui apparaît d'ailleurs dans l'album au tout début. Mais je suis revenu avec bonheur à mes pinceaux, c'est merveilleux.
Merci beaucoup Annick. Vous, Cyril Pedrosa, est-ce qu'il y a des techniques auxquelles vous n'étiez pas forcément habitué, que vous avez dû utiliser pour votre projet, celui-ci ou même des projets précédents ?
Il y a pas mal de techniques que j'ai découvert petit à petit. De toute façon, de manière générale, j'ai appris à faire de la bande dessinée, mais je pense comme Bernard, hein, en fait, vraiment en faisant. Là, en l'occurrence, sur ce projet de Nanbenjin, j'ai beaucoup travaillé en numérique, ce qui est assez inhabituel. Une grande partie du livre a été dessinée sur tablette. C'est un outil que je n'avais pas trop l'habitude d'utiliser pour le médium bande dessinée, mais en fait, que j'apprécie de plus en plus. Et il se trouve que là, c'était très, très, très utile parce que ça permettait très, très facilement de faire plein de modifications sur mon récit au fur et à mesure que je recevais les planches de Taillot pour être sûr que tout était parfaitement synchronisé entre nos deux histoires.
Ce que j'avais demandé, vous avez dû adapter votre style à celui de Taillot ou est-ce que comment vous avez harmonisé vos traits?
En fait, on n'a pas tellement harmonisé nos traits dans la mesure où on n'a pas cherché à les harmoniser dans la mesure où nos deux récits sont séparés et se lisent l'un après l'autre dans l'ordre que le lecteur souhaitera. Mais
ça ne pouvait pas être totalement non plus.
Non, mais par contre, différent. Nos deux récits sont totalement harmonisés. C'est-à-dire que on a deux points de vue différents, bien sûr, mais disons que les faits doivent être identiques, les situations doivent se passer au même endroit, les personnages doivent avoir le même costume, etc., etc. Donc on avait des problèmes de raccord, en fait. Il fallait que tout soit raccord tout le temps. Par contre, il y a un vrai effet, en tout cas, pour moi, d'influence. C'est-à-dire que c'est assez rare d'avoir la possibilité de travailler de cette manière-là avec un autre auteur. Et d'être en permanence, d'avoir dans la joie de recevoir son travail. C'est un émerveillement quand même de recevoir des planches de bande dessinée d'un auteur qu'on admire, qui travaille en duo en plus avec sa compagne, Sao. Donc c'est deux artistes passionnants. Et ce qui fait que, bon, d'abord, au-delà de la joie de recevoir leur travail, c'est-à-dire qu'il y a un effet d'influence, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ce qu'ils font avait un impact sur ce que je faisais. Et donc, au fur et à mesure de mon récit, mais c'était très très bien parce que ça collait parfaitement à ce qui arrivait à mon personnage.
C'est ça colle complètement au sens aussi de ce que
vous voulez faire. Oui, parce que c'est un personnage qui petit à petit trouve sa place au sein de cette communauté, même si je ne rentre pas dans le détail de ce qui lui arrive et des décisions qu'il va prendre par la suite. Mais du coup, cette espèce d'harmonisation lente qui se faisait un peu entre nos deux dessins, en tout cas le mien à l'écoute du sien, ça avait, d'abord j'y prenais beaucoup de plaisir, et puis en plus ça avait beaucoup de sens par rapport au livre.
J'imagine que c'est réciproque. Tu as vu dans le dessin de Matsumoto l'influence de ton trait.
Un peu, oui, surtout dans la manière de s'accaparer le personnage occidental, qui est très très proche de ce que j'en ai fait. Non, mais c'était vraiment une expérience artistiquement qui était passionnante.
Donc la bande dessinée va paraître aussi au Japon, j'imagine.
Elle sortira au Japon à la même date. Elle aura une forme différente. Les deux récits vont être assemblés, mais ça va être un livre beaucoup plus petit, parce que le paysage éditorial japonais n'est pas du tout le même. Ça va être une autre forme. Une partie sera prépubliée là-bas. Enfin, c'est-à-dire que jusqu'au bout, nos différences et nos points communs vont continuer de s'activer. Et ça, c'est passionnant.
Parce que c'est vrai que la lecture en japonais, elle se fait de droite à gauche. Et donc, eux, ils auront la version de droite à gauche d'abord, puis...
Le sens naturel de lecture est de droite à gauche, donc il est assez probable que les lecteurs japonais vont commencer par le récit de Taillot, mais c'est quelque chose sur lequel je n'ai pas encore la réponse. Je ne sais pas encore si mon récit à moi sera présenté aux lecteurs japonais avec une lecture occidentale de gauche à droite, ou si mes planches vont être inversées. Je ne sais pas. Parce que... A priori, les lecteurs japonais ont beaucoup moins l'habitude que les lecteurs français de lire d'autres types de récits qu'en France. En France, on est assez habitué à la lecture.
Un peu moins adaptable.
Et ils ont moins l'habitude. Je pense qu'ils sont tout à fait adaptables, mais ils ont moins l'habitude, en fait, de lire des récits occidentaux.
Mais le dessin inversé, c'est un gros problème.
C'est un gros problème, parce qu'évidemment, l'œil s'habitue... Enfin, tu le sais, que tout dessinateur sait que l'œil s'habitue aux erreurs, en fait. C'est-à-dire qu'il y a... Ouais. Et tout à coup, quand on retourne un dessin, on découvre à quel point notre dessin ne tient pas debout. Donc je pense que je vais avoir un moment d'effroi quand je vais découvrir mes planches dessins.
Et vous, Cosé, vous avez déjà travaillé à quatre mains?
Non, jamais. Moi, je suis un horrible individualiste. J'ai parfois des couleurs, mais je n'ai pas envie de me priver des couleurs, comme le font beaucoup de mes confrères. Parce que c'est mon grand plaisir, c'est là où je suis le plus à l'aise. Et donc, si je pouvais ne faire que des couleurs, j'hésiterais pas, mais ça ne paye pas. Donc j'écris des scénarios et je dessine à côté.
Alors bon, on commence à entrer petit à petit dans la technique. Je veux vraiment qu'on parle cuisine, comment on fabrique une BD quand on revient. Quelles sont vos méthodes de travail à l'un et à l'autre? Et qu'est-ce qui diffère de l'écriture d'un roman, par exemple? On en parle tout de suite.
Cette nuit dure toute m'as mis le cœur à l'envers. Sans toi, la vie est devenue un enfer. Entortillé dans mes draps, je crois me souvenir de toi. Lorsque tu disais tout bas que tu n'aimais que moi.
Bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Étienne Dao, Le Grand Sommeil. Et nous sommes toujours en compagnie des stars de la BD, auteurs, illustrateurs, Cyril Pedrosa et Bernard Cosandet, dit Cosé. C'est l'heure de l'atelier d'écriture, qui est donc aussi un atelier de dessin cette semaine.
Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Alors moi, j'ai aucune idée de comment on fabrique une bande dessinée. Il y a une question que je me suis toujours posée, enfin qu'on a dû déjà vous poser plusieurs fois, mais est-ce que vous commencez par le texte, par mettre en place une sorte de scénario, ou est-ce que c'est le dessin qui est premier, Cyril Pedrosa?
C'est l'écriture. J'écris longtemps et souvent j'écris vraiment un scénario comme si j'allais devoir confier ce scénario à quelqu'un d'autre qui allait devoir le dessiner. Donc je fais souvent un scénario très poussé, très écrit, parce qu'en fait j'y prends beaucoup de plaisir. J'aime bien écrire. Je m'y suis mis assez tard, j'ai commencé à écrire des scénarios vers une trentaine d'années. Et ça a été un long apprentissage et d'apprentissage aussi d'écoute de son intuition. Ce qui fait que plus ça va, plus j'écris et plus j'aime ça. Et le dessin, et donc j'essaie de ne pas penser au dessin du tout.
Ah oui, ça c'est étonnant.
Ouais, parce qu'en fait, je me méfie de ce que je sais faire en dessin, je me méfie de ce que j'aime faire en dessin, Je me méfie de mes habitudes, de mes savoir-faire, etc. Donc c'est plutôt, j'essaye de me concentrer vraiment sur mon histoire et de me dire, et tu verras plus tard ensuite comment ça...
Comment on enlève après du texte et qu'on remplace...
Oui, parce qu'en fait, le scénario en bande dessinée, de ce point de vue-là, est assez proche du scénario de cinéma, dans la mesure où c'est un texte littéraire, mais qui disparaît, qui n'existe pas. Oui, mais personne ne lit jamais un scénario de bande dessinée à part
les cinéma, on pense à l'image tout le temps. C'est pour ça que je...
Alors, quand on est scénariste, pas forcément, en fait. Je pense que quand on est scénariste, les gens qui sont scénaristes de cinéma, qui ne sont pas réalisateurs ou réalisatrices, je pense pas forcément qu'ils pensent image, ils pensent structure, ils pensent personnage,
ils pensent dramaturgie. Oui, mais ils peuvent pas, par exemple, entrer dans un grand monologue intérieur pendant...
Non, bien sûr, ils savent que ce qu'ils écrivent doit être possible avec le langage du cinéma. Je sais que ce que je dois écrire doit être possible avec le langage de la bande dessinée, bien sûr. Mais je ne pense pas, je me dis pas, je vais écrire ça, je vais écrire cette scène-là parce que j'aime bien les chevaux, donc ils vont... Non. Je me dis, si mon personnage aime les chevaux, donc il faut qu'il y ait des chevaux, voilà.
Oui, voilà. Donc ça impose le dessin.
Exactement, c'est le scénario qui impose le dessin.
Vous vous êtes jamais dit, bon ça, c'est super, mais je ne saurais pas le dessiner, donc
Si, bien sûr, plein de fois. Parfois je suis pris de terreur et je me dis, non, là je ne peux pas laisser ça parce que ça va être terrifiant à dessiner. Et puis parfois, en fait, il n'y a pas le choix. Et donc, parfois, dans certains albums, il y a des choses difficiles à dessiner. Mais il faut le faire parce que le récit en a besoin.
Et pour vous, alors, Cosé, c'est quoi? C'est l'écriture, le dessin?
Si je vous dis l'Acropole, vous avez une image.
Oui.
Essayez de compter les colonnes. Ce n'est pas possible. Non. Mais vous avez quand même eu une image. Alors, à mon avis, quand j'écris un scénario, c'est ce genre de visualisation très floue. Pourtant, elle est là, mais... Et donc, ça va précéder le dessin, évidemment. Mais surtout, ce que j'aimerais dire, c'est que je crois que la plupart, que ce soit des auteurs de bande dessinée, des scénaristes, des écrivains, j'ai l'impression que tout le monde s'évertue à développer un thème. Et moi, j'ai remarqué, après de nombreuses années d'expérience, que développer un thème, c'est tomber, pour moi, tomber dans des clichés. Et donc, je travaille plutôt comme pour un puzzle, où je récolte des pièces un peu partout dans la vie, et je les note sur un petit carnet, n'importe où. Et à un moment donné, j'essaye de les regrouper, de voir comment elles peuvent se mettre en relation les unes avec les autres. Et là, ça devient l'écriture du scénario, qui est donc, là, on pourrait dire, la première étape essentielle. Les notes avant, c'est des petits trucs qui viennent comme ça. Et donc, scénario, puis après, dessin. Mais alors, c'est vrai que la difficulté du dessin, parfois, ça m'a fait renoncer à des scènes, en me disant, mais je ne vais pas dessiner un truc pareil. Donc, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'une image difficile? Un repas de groupe avec 20 personnes à table qui mangent, ou bien un conseil d'administration avec des gens qui...
Ah oui,
ouais. C'est une image,
dans une
ça
case,
va.
C'est... Oui.
Mais le problème, c'est ça, faire une illustration, ok. Mais dans une BD, vous voulez raconter une scène, il faut plusieurs images. Et s'il faut plusieurs images de cette même table avec 20 convives autour...
C'est décourageant.
C'est l'enfer. Parce qu'il faut que ce soit cohérent. On dit, mais avant, il était assis à gauche, là, il y a...
Et en plus, c'est pas très sexy à dessiner, c'est pas très amusant.
C'est détestable. Alors qu'un personnage seul dans le désert ou dans un champ de neige, dans la neige, ça va encore. Oui. C'est mieux.
La neige, c'est encore mieux.
Oui, parce que le désert, il faut mettre une couleur, il faut mettre des petits trucs. Dans la neige, vous avez le papier, elle est déjà dessinée, donc je dessine juste le skieur et ça marche.
Mais ça, inconsciemment, vous le savez, en fait, c'est ce qui est intéressant aussi. C'est que finalement, vous n'avez pas fait de BD ni l'un ni l'autre sur des conseils d'administration. Donc,
non, c'est vrai.
C'est que finalement, même le cerveau sait
après,
déjà...
Après, si c'était vraiment un sujet qui nous passionnait, je pense qu'on l'aurait fait. Hein.
Oui, oui.
Vous feriez peut-être pas,
y a un manque
vous feriez peut-être pas de la bande dessinée.
On a globalement un manque d'appétit pour les conseils d'administration, je pense.
ce serait quand même assez drôle d'avoir un bédéaste fan de conseils d'administration.
Il y en a quelques-uns.
Sûrement.
Ah oui, il y a même des bandes dessinées qui parlent de ça, en fait, d'une certaine manière. Enfin, sur la finance et sur les intrigues, et parfois qui ont beaucoup de succès et qui sont vachement bien faites. Mais il faut savoir le faire, quoi.
On donne des noms.
on va peut-être pas se disputer avec tout le monde.
Tout le monde connaît.
Est-ce que Cyril Pedrosa, donc ce que je disais tout à l'heure, votre projet en cours, c'est un projet donc avec un auteur de manga japonais. Est-ce que vous envoyez des choses? Est-ce qu'il a fallu vous rencontrer vraiment pour travailler?
Alors il y tenait et puis moi aussi en fait, on s'est rencontrés plusieurs fois. Donc je suis allé plusieurs fois au Japon pour le rencontrer. D'abord pour le rencontrer, pour qu'on se connaisse un peu et pour qu'on voit réciproquement si on avait envie de travailler l'un avec l'autre et si on se sentait bien de travailler l'un avec l'autre. C'est quelqu'un, Sayo Matsumoto et sa compagne Sao, qui accordent beaucoup d'importance aussi à leur cadre de vie, à leur manière de travailler, etc. etc. Donc c'était important pour eux de se sentir bien, et moi j'avais envie qu'ils se sentent bien. Donc ces rencontres étaient nécessaires pour ça, et aussi, bien sûr, pour travailler ensemble, concrètement, pour écrire. C'est-à-dire que, parce que, bien sûr, à partir de la petite trame minuscule que moi j'avais écrite, eux, ils sont arrivés avec plein d'éléments qui m'ont fait réagir, qui m'ont fait reproposer d'autres choses. Donc déjà, dans l'écriture, il y a eu un ping-pong, même si on était autonome dans nos récits. Hein, je suis absolument pas intervenu sur le récit de Taïo, et lui, pas directement sur mon récit, mais comme il fallait que tout s'entrecroise bien, on avait besoin d'échanger. On est allé ensemble en repérage sur l'île de Tanegashima, où se passe le récit de Nanbanjin. On y a passé une semaine ensemble, on a fait des photos, ensuite, enfin voilà, on a passé un peu de temps ensemble.
Il faut s'entendre quand même.
Il faut s'entendre, oui, mais après c'est pas forcément très compliqué, c'est dans la mesure où, je sais pas, j'ai eu d'autres occasions, pas forcément avec des auteurs de bande dessinée, mais travailler avec des artistes, on va dire, hommes ou femmes. Souvent, ça s'est très bien passé. C'est facile si ce sont des gens qui sont heureux de faire ce qu'ils font. Parce que là, il y a un plaisir. C'est comme quand on est enfant et qu'on prend plaisir à participer ensemble à un jeu. On s'amuse follement. Donc, il peut y avoir des gens qui ont un caractère plus difficile, qui vont être un peu pénibles, je sais pas, sur d'autres trucs.
Égo,
mais pas dans le travail. Dans le travail, s'ils sont pénibles, pour moi, c'est pas des artistes intéressants. Enfin, il y en a quelques-uns, mais c'est rare. Et en l'occurrence, c'était d'une très grande simplicité. Enfin, vraiment, c'est juste, on s'amuse, on essaie d'inventer une chouette histoire, d'avoir des personnages intéressants et de se montrer nos dessins. Dire, ah, t'as fait ça, ça me plaît beaucoup, je vais le reprendre, ce décor. Voilà, c'est un jeu, en fait, vraiment.
Vous communiquez en français, en anglais?
En anglais, et aussi par l'intermédiaire d'une traductrice qui nous accompagne, Choco Sandoval, qui bosse avec nous depuis le début du projet et qui est précieuse.
Et la question de la langue est quand même aussi très très importante.
Ah, c'est très très important, sachant qu'en plus les malentendus participent aussi du projet. C'est-à-dire que parfois on ne s'est pas compris, puis on a gardé nos incompréhensions parce que c'était fécond, en fait. Et puis en plus, il y a ensuite nos éditeurs et éditrices respectifs. Donc on n'est pas seul du tout sur ce projet.
Je me demandais comment vous aviez commencé la bande dessinée l'un l'autre, Cosette. Comment c'est venu? Est-ce que c'est en lisant des bandes dessinées? C'est quoi le point de départ?
Ah, c'est l'énorme bonheur que j'ai ressenti enfant en lisant des bandes dessinées qui étaient classiques. Il n'y avait pas d'autre chose. Il y avait les Spirou et Fantasio, il y avait Jean et Pierre-Louis, etc., Lucky Luke. Et j'ai cherché à reproduire ce bonheur en recopiant d'abord. Puis après, j'ai essayé de faire des œuvres originales d'une maladresse absolue. Mais à l'âge de 8-9 ans, évidemment. Mais vraiment, c'est ce que je voulais. Et voilà, je me suis battu parce que j'estimais que il y avait des gens plus doués que moi en dessin dans ma classe. Par exemple, à l'école, j'étais pas le meilleur dessinateur. En revanche, j'étais le plus passionné et j'ai appris beaucoup en copiant. Et puis, il y a eu un élément important, ma rencontre avec Derib, qui était le premier auteur de bande dessinée en Suisse, qui a dessiné Attila dans Spirou, et puis qu'on a connu mieux après avec Buddy Longway, Yakari. Et donc, je suis allé le trouver, on s'est lié d'amitié, j'ai travaillé dans son atelier pendant plusieurs années.
Et vous, Cyril Pedrosa?
Au départ, de la même manière que Bernard, c'est-à-dire comme lecteur, enfant, c'était vraiment mes premières émotions avec de la fiction, c'était la bande dessinée. Et donc, j'ai tout de suite eu envie de faire ça.
Et vous aussi de reproduire
En fait, oui, je reproduisais. Moi, c'était vraiment Astérix. J'étais fou du dessin du Derzo. Ça m'électrisait complètement. Donc, je recopiais beaucoup son dessin. Mais, alors, par contre, je savais que je voulais faire de la bande dessinée. Mais alors, voilà, c'est là que s'est posé les premiers problèmes de faire confiance à ses intuitions. Mes parents n'étaient pas du tout d'accord avec ce projet. Et donc, j'y ai renoncé, en fait. Je dessinais beaucoup. Je rêvais de faire de la bande dessinée, mais j'y ai renoncé. Et c'est quelque chose vers lequel je suis revenu après le bac, en fait, à un moment donné où j'ai fait le maximum, j'ai essayé de faire des études d'ingénieur pour faire plaisir à mes parents, etc. Puis je me suis rendu compte là vraiment c'était pas possible, en fait, je n'allais pas y arriver. Et c'est ça qui m'a remis sur le chemin du dessin et de la bande dessinée.
Et vous avez commencé avec en faisant quoi, de l'animation?
Alors, par contre, oui, c'est ça. En fait, j'ai d'abord commencé par faire une école d'animation et j'ai travaillé un peu dans le dessin animé.
Je parlais de Disney tout à l'heure.
Ouais, parce que j'ai eu la chance. À cette époque-là, il y avait un studio à Paris un studio Disney qui travaillait sur le long métrage. C'était pas très difficile d'y rentrer parce qu'ils avaient besoin d'embaucher beaucoup de monde. Et puis moi, je sortais d'une des seules écoles d'animation qu'il y avait en France. Et j'ai adoré cette expérience. Ça m'a plu beaucoup. J'ai même hésité pendant un temps à finalement. Parce que ça me faisait peur en même temps, la bande dessinée. Et j'étais pas sûr de moi, encore une fois, pas sûr de mes intuitions. Et c'était très rassurant d'être dans une entreprise Disney, tout ça. On gagnait bien sa vie. Et puis on faisait des films qui étaient vus dans le monde entier. Enfin, donc c'était très rassurant et très réconfortant. Et par chance, j'ai rencontré un scénariste qui s'appelle David Chauvel, qui avait à peu près mon âge, enfin qui a toujours mon âge, et on est devenus très amis. Et moi, je ne savais pas écrire des histoires, et lui, oui, et lui, il ne savait pas dessiner, et moi, oui. Et donc, voilà, tout de suite, on s'est entendu, et ça m'a
redonné... Tout de suite, le travail collectif, en fait.
En tout cas, la rencontre, c'est, ça a été déterminant à plein de moments de ma vie, tout le temps, et en bande dessinée, beaucoup. Des rencontres qui m'ont aidé à franchir des caps, en fait, à aller plus loin que ce que j'étais capable de faire tout seul.
Qu'est-ce que vous en avez gardé de cette expérience chez Disney ?
D'abord un goût énorme de l'animation, j'adore ça. Je continue encore à travailler sur des projets en animation. Là, j'ai passé plusieurs années en même temps que je travaillais sur Nan Banjin à travailler sur un long métrage de Sébastien Odenbach et j'ai adoré ça. C'est un médium que je trouve d'une poésie folle. C'est vraiment très très, très beau. L'animation en soi, le processus
de l'animation.
Et dans
le dessin.
Mais dans le dessin, après, je pense.
Parce que vous avez maintenant, c'est très épuré. C'est quand même
oui,
très
mais disons une forme d'expressivité des corps qui est très lié en plus au fait que je sois passé par Disney, qui a un type d'animation en particulier, mais qui utilise beaucoup les corps pour raconter quelque chose. Et j'ai tendance un peu à aller là-dedans, à utiliser les corps et la manière dont ils sont dans l'espace, etc., pour exprimer quelque chose. Parfois un peu trop, mais c'est un peu une habitude que j'ai pris.
Alors Cyril Pedrosa, je vous invite à présent dans l'autre pays de la BD, la Belgique, où nous retrouvons Catherine Manger de la librairie Papyrus à Namur. Bonjour Catherine.
Bonjour Lilia, bonjour Cyril.
Alors
bonjour.
Vous connaissez bien le travail de Cyril Pedrosa et je crois que vous avez un petit faible pour son héros.
Mais oui, dans Nan Banjin, en fait comme dans d'autres ouvrages que vous avez précédemment édités, on retrouve un héros, Fernando, qui est à la fois très attachant et mystérieux. On s'attache à lui et pourtant on ne sait vraiment pas grand-chose sur qui il est, ce qu'il a fait dans le passé. On ne sait pas si c'est un brave type ou si c'est un bandit. Il semble un peu perdu et on sent qu'il porte en lui plein de questions, qu'il a probablement déjà vécu plein de choses, des événements douloureux notamment. Et ce qui est magique dans votre travail, c'est que c'est à travers le dessin que tout cela transparaît. Les choses ne sont pas racontées de manière limpide, mais il y a dans vos dessins, dans les regards des personnages, dans les postures, une force, des traits difficilement descriptibles, mais qui expriment plein de choses qui ne sont pas écrites. C'est assez fascinant, je trouve, de voir ce que le dessin peut exprimer, plus que des mots parfois. Et Fernando, il travaille sur un navire qui traverse les océans pour commercer. On est au XVIe siècle, hein, on n'en a pas beaucoup parlé, mais à l'époque, c'est vraiment tout un long périple qu'ils doivent entreprendre les gens pour voyager, pour commercer et pour arriver dans une autre partie du monde. On n'y va pas pour le week-end, on y passe souvent plusieurs mois quand on y est. Et une œuvre comme la vôtre, comme celle que vous avez entreprise ici avec Nan Banjin, ça nous fait vraiment voyager dans le temps. Et ça nous rappelle que la rencontre d'une autre culture, ça prend du temps. Il me semble essentiel aujourd'hui de proposer des récits comme ça qui nous embarquent vers ces époques où le rapport au monde, la découverte d'autres pays, d'autres cultures, d'autres territoires se fait sur le temps long.
Cette question du temps long, elle est très intéressante, Catherine. Vous avez une question à ce sujet.
Oui, ben donc je me demandais, on en a déjà un peu parlé, mais comment le rapport avec le Japon, le contact avec le Japon avait été fait pour vous et qu'est-ce que ça vous avait enseigné dans la manière de travailler, comment la rencontre avec cette autre culture s'était opérée.
En fait, c'est-à-dire que la rencontre avec le Japon, elle est toujours en cours, c'est-à-dire que c'est un pays que je connais peu. Finalement, à la fois même sa géographie, je la connais peu, je connais certains endroits du Japon mal, parce qu'en fait j'y ai passé au maximum 5 semaines, 6 semaines de ma vie, ce qui est quand même très peu pour connaître un pays quel qu'il soit en fait. Mais elle s'est faite surtout à travers l'expérience d'une rencontre humaine, c'est-à-dire qu'en l'occurrence cette rencontre avec le Japon s'est beaucoup fait à travers la rencontre avec Tayo et avec Sao, donc dans des échanges, dans de l'écoute beaucoup, avec une particularité, c'est que c'est un peu particulier et étrange d'être à ce point-là admiratif de l'œuvre de quelqu'un et d'avoir l'occasion de pouvoir échanger avec lui ou avec elle, mais avec un pied d'égalité totale. C'est très particulier, ce qui fait qu'on ça permet très vite de se dire des choses très franche, très directe, très ouverte. Et donc, j'ai appris, je ne sais pas ce que je sais du Japon, mais j'ai appris beaucoup de choses sur lui, sur elle, sur eux, sur leur rapport à la narration, au récit, sur ce qu'ils cherchent à faire lorsqu'ils font de la bande dessinée, sur ce qu'ils aiment dans la bande dessinée, sur des choses qui sont différentes de ce qui m'anime moi, mais que je trouve magnifique. Et surtout, c'était l'occasion, d'être confronté à l'autre. Je trouve que c'est quelque chose qui a tendance à s'effacer dans nos expériences humaines. Je trouve que l'altérité, c'est quelque chose qu'on a tendance à réduire. En tout cas, ici, de notre place occidentale, on a plutôt tendance à vouloir que le monde soit comme nous. Et c'est toujours très émouvant. Moi, ça me touche beaucoup lorsque j'ai l'occasion de rencontrer quelque chose qui est différent de moi. Alors j'ai de la chance parce que je peux le faire en me sentant tout le temps en sécurité, ce qui n'est pas toujours le cas lorsqu'on rencontre l'autre. Mais quand même, c'est ce qui m'a le plus plu en fait dans cette expérience-là.
Et ben c'est réussi. Merci beaucoup Catherine. Cosé, j'avais une question parce que là on parlait justement du collectif. C'est quoi la qualité principale d'un auteur de BD?
Alors là...
Si j'ai envie de me lancer dans la BD demain, qu'est-ce qu'il faut que je sache faire absolument?
Moi, je dirais que c'est la même qualité que pour tout auteur de fiction, qu'on soit dans la littérature, le cinéma, le théâtre. Je pense que c'est une... je dirais, ça va faire un peu bateau, l'amour de l'humanité. C'est-à-dire aimer l'être humain avec ses défauts et ses qualités, et s'y intéresser avec le moins de préjugés possible, comme... vient de le dire Cyril, donc la découverte de l'autre, et sans jugement, mais une écoute absolue.
Merci beaucoup, merci Catherine. On se retrouve dans un instant pour votre conseil lecture de la semaine, Catherine Manger. Mais d'abord, on écoute Forever Pivot and l'Inspecteur UFO.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission etc. Nous sommes toujours en compagnie des bédéastes Cyril Pedroza et Cosé. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Lilia Hassen, au livre etc.
Et on retrouve Catherine Manger de la librairie Papyrus à Namur. Catherine, vous aviez une bande dessinée à conseiller à nos auteurs du jour.
Alors, ce n'est pas une bande dessinée, en fait. C'est un roman, un roman-récit, livre d'histoire que j'aimerais conseiller et qui fait écho à la question de l'altérité, de la rencontre de l'autre et d'un autre regard sur le monde. Il s'agit du livre «
qui a fait le tour de quoi ? De l'historien Romain Bertrand, publié aux éditions Verdier. C'est un magnifique récit d'aventure autour du personnage de Magellan et de son tour du monde. On découvre notamment que Magellan, quand il est arrivé dans les îles du Pacifique, du côté de la Polynésie, a rencontré des peuples qui possédaient des bateaux magnifiques, bien plus grands et plus sophistiqués que les bateaux européens. Ces peuples avaient aussi déjà cartographié le continent américain, le Pacifique et presque le monde entier. En fait, ils étaient de bien meilleurs navigateurs que les Européens. Ils avaient déjà largement découvert le monde. Alors, lorsqu'on raconte dans les cours d'histoire ici, en Occident, que Magellan est le premier homme à avoir fait le tour du monde, c'est vraiment une vue de l'esprit, et on raconte toujours l'histoire depuis un certain point de vue. Et souvent, découvrir et comprendre le point de vue d'un autre sur cette même histoire, ben, ça nous donne une nouvelle clé de lecture, et c'est ce que ce livre propose, et c'est terriblement enrichissant.
Bah écoutez, ça donne envie, je rappelle le titre, « Qui a fait le tour de quoi ?» de Romain Bertrand aux éditions Verdier. Causez Cyril Pedrosa, pour finir, est-ce que vous auriez une bande dessinée à nous conseiller l'un l'autre, Cosette.
Ouais, je viens de finir un bouquin super de deux auteurs dont j'ai oublié les noms, que je ne connaissais pas. Ça s'intitule Thrillerville, donc okay. Thriller comme les films à suspense, ville. Et c'est vraiment à la fois drôle, passionnant, c'est un dessin beau et intelligent. Vraiment, ça m'a enthousiasmé.
Et vous, Cyril Pedrosa ?
On en parlait tout à l'heure, j'ai eu du mal à retrouver la dernière bande dessinée que j'ai aimée. C'est Balade, chez Atrabile, et je crois que l'autrice s'appelle Camille Pott. J'espère que je n'écorche pas son nom, pardon. C'est très très drôle, c'est un dessin très singulier, qui se passe, c'est comme une espèce de récit médiéval, humoristique et étrange. Voilà. Et c'est un très bon livre.
Et je voulais vous poser quand même une petite question, puisqu'on on a quand même parlé beaucoup de ce médium qui est la bande dessinée. Est-ce que vous lisez d'autres genres ? Est-ce que vous avez été tenté aussi par exemple, l'écriture romanesque, Cyril Pedrosa ?
L'écriture romanesque, non, mais disons que j'aime bien écrire. J'ai écrit,
ou par la exemple, poésie ou...
Ouais, j'écris des textes courts, puis j'ai eu l'occasion de faire un petit bouquin qui allie texte et images comme ça. Mais c'est un champ d'expression qui m'impressionne beaucoup, la littérature. Après, j'en lis. Je lis moins en ce moment qu'à une autre époque. Je pense que c'est sans doute le cas pour tous les lecteurs. On a des phases comme ça. Un peu. Donc là, en ce moment, je lis un peu moins de littérature. J'ai du mal à trouver des livres qui m'emportent totalement. J'ai des livres que je lis avec intérêt, parfois avec plaisir, mais qui m'emporte, ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé.
Qu'est-ce que vous aimez lire, de manière générale ?
Je ne sais pas, mais vous voyez, la dernière fois, ça date un peu, mais quand j'avais lu de Ken Kesey, parfois j'ai comme une grande idée, c'est un roman, c'est pas forcément la littérature la plus stylisée qu'on connaisse, mais c'est quelque chose qui m'avait complètement emporté, vous voyez, ce genre de livre qu'on a absolument envie de retrouver. Et là, ça fait un moment que ça ne m'est pas arrivé.
Et vous, Cosé, alors là, est-ce qu'il y a d'autres
Moi, je suis très tenté, mais c'est peut-être mon côté paresseux. C'est pour éviter certains problèmes de dessin que je me dis que la littérature, je m'en tirerais bien si je dois faire une scène de conseil d'administration. Mais comme c'est moi qui l'écris, il n'y en aura pas.
C'est cette fameuse scène dont vous rêvez.
Non. Non, mais je rêve d'évoquer par des mots des images dans la tête des lecteurs, lectrices. Et oui, j'aimerais bien écrire ce que j'appelle une histoire sans images, mais tout le monde me dit que c'est plutôt un roman.
Ça s'appelle comme ça, je crois.
Ça s'appelle roman, alors d'accord, j'aimerais bien écrire un roman.
Vous avez commencé ?
Ouais, oui, mais il est quasiment fini, ouais. Donc on verra ce que ça donne. Mais, et puis, mes lectures, j'ai depuis longtemps un penchant pour la littérature américaine contemporaine, avec en numéro un, le grand Saul Bellow, qu'on ne connaît pas dans les pays francophones. On lit Philippe Roth, qui est son élève. Je suis poli. Mais, non, je suis gentil. Mais Saul Bellow, à lire de toute urgence, c'est génial. Lui, il parle de l'être humain. Il ouvre les yeux et les oreilles. Et puis des Salinger, évidemment, comme tout le monde. Raymond Carver, etc.
Carver, j'adore.
Écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les deux. Cosé, Cyril Pedrosa, c'est la fin de cette émission. Je recommande vos bandes dessinées, toutes vos bandes dessinées et vos futurs romans, à tous les deux. En particulier vos derniers projets. Pour vous, Cosé, Yiyun, publié aux éditions Le Lombard, un album d'une grande délicatesse à la fois intime et politique, où le dessin épuré nous invite à un voyage au cours duquel on apprend plein de choses. Et en attendant, le projet complet, monumental de 500 pages qui sortira fin août, c'est ça,
Cyril
Pedrosa. Je vous conseille également les cahiers préparatoires de Nam Banjin, le projet de Cyril Pedrosa avec Taiyo Matsumoto, publié aux éditions Dupuis sous le label Air Libre, ou la genèse d'une œuvre ambitieuse en forme de dialogue entre deux grands auteurs de cultures différentes. Merci enfin à nos libraires du jour, Catherine Manger et Annick Vermeaux, ainsi qu'à mon équipe, Lilian Alloum à la réalisation, Alex Olaré-Wajou, Otinois à la technique, Estelle Gap et Ophélie Vivier à la programmation. Je rappelle qu'Olivre etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, je vous souhaite une bonne année 2026, tout en poésie et découverte littéraire.